Coucou les addicts, on se retrouve pour décrypter le quatrième épisode de la dernière saison d'Outlander. Et je vais commencer par la sensation qu'il m'a laissée, parce qu'elle dit déjà tout. Après un troisième épisode qui m'avait emporté sur une grande vague d'émotions, celui-ci m'a fait un effet très différent, plus diffus. L'impression qu'on allume des petites mèches un peu partout. Pas de grand brasier, pas encore, juste des étincelles ici et là, sur presque tous les personnages à la fois. Alors, c'est un épisode moins bouleversant, je vous le dis honnêtement, mais d'une densité remarquable. Et la preuve qu'il fonctionne, c'est que je ne l'ai pas vu passer. Quand il s'est terminé, je l'ai même trouvé un peu court, surprise que ce soit déjà fini, tant il y a de choses dedans. Si vous arrivez ici sans connaître la maison, un mot pour vous. Ces décryptages naissent d'abord sur mon Patreon, où mes addicts les reçoivent en avant-première, avant de venir ici avec vous. Alors, vous abonner et activer la cloche ne vous coûte rien. Et c'est le petit geste qui aide ces vidéos à rejoindre d'autres fans d'Outlander. Au programme, comme toujours, je vous parle du titre, de la title card, de mes impressions, mon top, mon flop, et puis quelques grandes thématiques pour aller fouiller sous la surface. Installez-vous, on y va. Je vous parle d'abord du titre et celui-ci me fait sourire. Mousquet, liberté et choucroute, c'est aussi inattendu que ça en a l'air, et pour cause, c'est un toast, celui que portent Fergus, Marsali, Roger et Brianna autour d'un verre de whisky de la cuvée Fraser. Regardez un peu comme ce toast raconte l'épisode en trois mots. Les mousquets, c'est la guerre qui approche et cette course aux armes qui met tout le monde en mouvement. La liberté, c'est ce que chacun recherche à sa façon. Et puis la choucroute, c'est l'idée la plus maligne de l'épisode. Pour faire passer l'or des Français sans éveiller les soupçons, on le cache dans un tonneau à double fond sous une bonne couche de choucroute qui sent bien fort. Bah oui, il faut que ce soit repoussant pour que personne n'ose y mettre le nez dedans. Le plus humble protège le plus précieux. Voilà une image qu'on va essayer de garder parce que dans cet épisode, presque rien n'est là où on l'attend. La title card de son côté nous montre des mains, sans doute celle de Brianna, hein, qui prépare du matériel de peinture. C'est une belle title card, douce, délicate. Et ça contraste assez nettement avec l'ouverture sur les lingots d'or posés sur la table de la cuisine. D'un côté, le calcul et la guerre, et de l'autre, la création. Et ce détail n'est pas qu'esthétique, à mon sens. Ce sont précisément ces pinceaux qui vont mettre Brianna en route. Officiellement, elle part à Savannah peindre le portrait d'Amaranthus et de son bébé, une commande de Lord John destinée à son frère Hal. Et en réalité, c'est une couverture pour acheter des armes. Mais c'est aussi ce prétexte qui va la conduire jusqu'à William. Je vais vous décrire cet épisode par ce qu'il n'est pas, parce que c'est assez éclairant. Il n'a pas de grande scène pivot, pas de climax unique vers lequel tout converge. C'est un épisode clairement éclaté qui s'éparpille volontairement entre une foule de personnages et de lieux, et le tour de force, c'est qu'il reste parfaitement maîtrisé. On passe de Savannah au Ridge, de Fergus à Brianna, de Claire à Roger, et pourtant, on ne se perd jamais. Et autre chose qui m'a frappée, Jimmy et Claire, d'ordinaire au centre de tout, s'effacent un peu dans l'épisode. Ils sont là, bien sûr, mais l'épisode laisse beaucoup de place à l'ensemble, aux personnages qu'on peut dire secondaires. Et ça lui donne une vraie respiration chorale. Ce qui porte tout ça, c'est l'écriture et surtout sa fidélité au roman. Énormément de dialogues sont repris presque mot pour mot des pages de Diana Gabaldon. Et ça, mes addicts l'ont savouré et d'autres fans aussi. Et je vous donne trois exemples. La discussion entre Claire et Fanny sur les maisons, cette idée magnifique que les lieux où l'on vit longtemps absorbent un peu de ceux qui les habitent. Ça, c'est du livre, presque à la virgule. Il y a aussi le savoureux échange entre Fanny et Elspeth sur les vertus et les vices, où Fanny dit à Elspeth que satisfaire un homme en 2 minutes est une vertu. Lol, mais ça aussi, c'est du livre. Et puis, bien sûr, la réplique de Fergus sur son père, sur laquelle je reviendrai longuement. Retrouver les mots même de la romancière pour la lectrice que je suis, c'est un vrai bonheur et une belle marque de respect pour son œuvre. Côté image, je veux pointer ces grands plans larges sur le ridge, ces chevauchées, ces scènes ou jardins, où l'espace, la lumière et la terre prennent une vraie présence. On respire, on sent l'Amérique, et ça donne de l'ampleur à l'ensemble. Et puisqu'on est dans les éloges, un mot sur l'interprétation, parce que plusieurs comédiens tirent clairement l'épisode vers le haut. César Dunboy, d'abord, bouleversant en Fergus, dont je vous reparle plus bas. La jeune Florrie Mae Wilkinson, épatante de justesse en Fanny, je crois que j'en ai parlé dans le décryptage de l'épisode 3. Je trouve qu'elle apporte un vrai supplément d'âme à chacune de ces scènes. On peut citer aussi Charles van der Waart, qui rend enfin William touchant et plus apaisé. Et puis notre savoureuse Elspeth Cunningham, hein, jouée par Frances Tomalty, qui rend ce personnage bien plus trouble qu'il n'y paraît. Et puis, mention spéciale à David Berry, tout simplement impérial en Lord John. Il a peu de scènes et pourtant, à chaque apparition, il est juste, drôle, déchirant, un peu tout ça ou le tout à la fois. Beaucoup en ont fait l'un des sommets de cette saison et franchement, je les rejoins sans réserve. Un dernier mot sur un détail de costume qui m'a frappée, c'est le retour des tartans. Ils avaient quasiment disparu ces dernières saisons et là, j'ai l'impression qu'on les voit partout, jusque sur Yann. Lui qu'on a connu ces dernières saisons habillé à la mode Mohawk, et sur cette terre d'Amérique où ils se battent désormais, les Fraser et les leurs réaffichent par l'étoffe, par le costume, d'où ils viennent et qui ils sont. Comme un motif visuel qui dialogue avec tout ce que l'épisode raconte sur l'identité, et on va y revenir. Mon top cette fois, ce n'est pas une scène, mais un personnage, parce que c'est l'épisode où Brianna m'a vraiment étonnée par sa maturité. On a connu cette jeune femme à 20 ans, même un peu moins, parfois raide, pas toujours simple à aimer ou à apprécier. Et regardez un peu où elle en est. Une femme accomplie, une mère, une fille, et puis surtout une médiatrice. Elle est celle qui apaise, celle qui relie. Ça éclate dans la scène tant attendue avec William. On pouvait redouter la confrontation, le reproche, la colère de ce jeune homme qui digère encore mal sa filiation, et la série fait un choix tout en retenue. Et notez d'abord la jolie pirouette de mise en scène, hein, Lord John dans une sortie quasi burlesque et Amaranthus visiblement froissé, s'éclipsent tous les deux l'un après l'autre pour laisser le frère et la sœur en tête-à-tête. C'est assez théâtral et plutôt drôle. Et là, Brianna s'excuse, elle ne force rien hein, et sa douceur désamorce tout. Elle parle à William d'égal à égal, en femme qui a traversé exactement la même secousse, c'est-à-dire découvrir adulte que son père est Jamie Fraser. Et le jeune homme, pour la première fois, sourit en évoquant Jamie. Et ça se confirme dans la scène entre Brianna et Lord John que j'ai trouvée elle aussi magnifique. Il y a entre ces deux-là une vraie tendresse, une amitié qui remonte à la saison 4. Et Brianna fait un geste très beau. Alors qu'elle pourrait revendiquer Jamie comme le seul vrai père de William, elle reconnaît à John son rôle de père pour le jeune homme. Et elle le lui laisse simplement. Elle promet d'aider à apaiser le garçon et on ne doute pas une seule seconde qu'elle va le faire. Et puis il y a un détail de langage qui dit tout d'elle. Dans cet épisode où on passe son temps à compter les bâtards et les demi-frères, Brianna, elle, parle de notre père, de notre mère, incluant d'un même souffle William et Fergus dans sa famille. Là où l'épisode ne cesse de séparer et d'étiqueter, elle rassemble. Et si Brianna est mon top, c'est pour tout ça, parce qu'elle incarne la stabilité au cœur d'un épisode où beaucoup de choses vacillent. Et puis, il faut le dire, Sophie Skelton est excellente. Beaucoup l'ont relevée dans notre visio avec les addicts, et c'est assez rare pour être souligné parce qu'elle n'a pas toujours fait l'unanimité. Et je pense que l'actrice donne enfin cette assurance tranquille, cette épaisseur de femme qui a trouvé sa place. Avant mon flop, je vais m'arrêter sur une autre scène qui m'a beaucoup touchée. Et je sais que je ne suis pas la seule parce qu'elle a fait vibrer toute notre communauté. Fergus qui se confie à Marsali après sa rencontre avec Percy. Alors on pose le contexte. Percy, un homme dont on précise tout de suite hein, qu'il est un parfait opportuniste, vient annoncer à Fergus une filiation possible, prestigieuse, avec le comte Saint-Germain. Un nom qui vous dit sans doute quelque chose, hein, c'est un personnage de la saison 2, les fidèles le connaissent bien. Une lignée noble, un héritage, des terres, enfin de quoi faire tourner la tête de n'importe quel orphelin. Et puis il y a là quand même une ironie qui donne le vertige. Ce père putatif, ce comte, c'est précisément l'homme que Claire a empoisonné dans la saison 2, dans la chambre étoilée. Autrement dit, celui dont Fergus pourrait porter le sang a péri de la main de celle qu'il considère comme sa mère de cœur. Tout Outlander tient dans ce genre de nœud narratif. Et c'est là que Fergus prononce cette réplique qui m'a serré le cœur. On lui a dit ce que tout orphelin rêve d'entendre, c'est ce qu'il rapporte à Marsani.
Monsieur Beauchamp told me what every orphan wants to hear, that I'm the son of a great man. But I'm already the son of a great man.
Et tout est dans cette phrase. On lui tend un héritage immense, une mèche potentiellement explosive aussi, et il oppose un refus net parce que le père qu'il a choisi, c'est Jamie. C'est une déclaration d'amour déguisée, une affirmation tranquille de qui il est. Et ce que je trouve formidable, c'est ce que ce refus fait au personnage. Parce que pour moi, il en ressort grandi, raffermi dans son identité. Et pour la fan que je suis, c'est aussi un vrai plaisir de retrouver enfin Fergus au cœur d'un vrai fil narratif. Vous en souvenez, on l'avait quitté dépressif lors de la saison 6. Alors le voir ainsi, debout, lucide, maître de ses choix, eh ben, ça fait du bien. Alors, en contrepoint, pour la lectrice que je suis, et peut-être que d'autres sont comme moi, j'ai un petit pincement d'adaptation sur cette scène, parce que dans les romans, bah, Fergus adresse cette phrase hein, « Je suis déjà le fils d'un grand homme », il l'adresse directement à Jamie, et c'est l'une des plus belles déclarations de tout son parcours. Alors j'aurais adoré voir la réaction de Jamie face à cette mise à nu. La série a préféré la confier à Marsali, et la réaction de Marsali, qui connaît son Fergus par cœur, est très juste. Mais je vous avoue, une toute petite nostalgie de la version du roman. Alors cela dit, hein, le jeu de César est si habité que la scène fonctionne pleinement. L'acteur a rarement droit à un moment de cette ampleur et en tant que fan du personnage, j'étais vraiment comblée. Pour mon flop, je serai honnête et tendre à la fois parce qu'il ne s'agit pas d'un défaut d'écriture mais d'un choix de réalisation qui m'a fait tiquer au pire endroit possible. Avant le départ d'Ian et Rachel, Jamie récite une bénédiction de voyage, hein, très belle, tirée du Carmina Gadelica, ce recueil de prières et de chants traditionnels des Highlands. Et pour les lecteurs, c'est fidèle au roman, le moment devrait nous cueillir. Sauf qu'à mon goût, la mise en scène gâche tout. On aligne les personnages côte à côte, en haut de la crête, tous tournés vers l'horizon, à regarder au loin pendant que la musique enfle. Et ça sonne terriblement figé, hein, presque cliché. Ça m'a sorti de l'émotion au premier visionnage, et ça m'en a encore sorti lors de mes visionnages suivants. Alors, pourquoi ça m'a sorti comme ça de la scène? Parce qu'en fait, je pense qu'il faut distinguer deux sortes de scènes. Il y a cette scène qui naît d'elle-même, où les personnages sont là pour de vraies raisons et disent des choses vraies. Et puis, il y a le moment fabriqué, qui vous attrape par le bras pour vous ordonner de ressentir avec de la musique et des placements, qui en font vraiment trop. Et la prière, hélas, bascule du côté du moment fabriqué. Et le plus frustrant, c'est qu'elle arrive juste après une scène superbe entre Jamie et Ian, une scène sobre, retenue et vraiment juste. On passe du vrai à l'artificiel en quelques secondes. Voilà, c'est mon seul bémol, posé avec affection, parce que la prière elle-même, je vous l'ai dit, je ne remets pas en question, c'est magnifique. Mais c'est son emballage qui ne lui rend pas justice. Alors pour mon premier thème, j'ai choisi un fil qui m'a vraiment marqué. Et attention, parce qu'on touche à un thème qu'Outlander explore depuis toujours, hein, c'est la filiation. Mais là, l'épisode lui donne un angle presque inversé. D'habitude, on nous parle d'un héritage qu'on reçoit et qu'on transmet, et ici, l'épisode raconte l'inverse. C'est le droit de refuser un nom qu'on veut vous coller, et de choisir qui l'on est. Alors Fergus en est l'exemple le plus pur, hein, on vient d'en parler. Mais voyez un peu comme le même geste traverse l'épisode et de façon troublante, parce que Fergus et William vivent ici la même histoire, à l'envers l'un de l'autre. Deux enfants nés hors mariage, de bâtards, comme on disait à l'époque, sauf que Fergus découvre une mère biologique qu'il a détestée et un père monstrueux, là où William, lui, a grandi entouré de parents adoptifs aimants. Et leurs réactions se répondent en miroir. Fergus refuse le nom qu'on lui propose, tandis que William voudrait renoncer au sien, à ce titre de conte devenu un fardeau. Et c'est Amaranthus qui offre à William la plus belle formule. Et elle pourrait servir de devise à toute la thématique.
Well, you may disagree. I believe a title is something you simply have, not something you are.
Et au fond, tous ces personnages disent la même chose, qui est sans doute le cœur battant de l'épisode. Les liens du cœur priment sur les liens du sang. Fergus choisit Jamie contre un conte. Brianna offre sa famille à William. Lord John est un père sans être un géniteur. Le sang ici ne décide de rien. Ce qui compte, c'est qui l'on choisit d'aimer et qui l'on choisit d'être. Le deuxième thème prolonge ce que la saison installe depuis le début. La menace qui se rapproche, mais avec une nuance qui change tout. Jusqu'ici, le danger restait diffus, lointain, une guerre qui montait quelque part. Et dans cet épisode, il prend un visage, un nom. et il franchit le seuil de la maison. Alors ce visage, bien sûr, vous l'avez compris, c'est celui du capitaine Cunningham. Et la scène où il débarque chez Claire est vraiment glaçante. Il n'attend pas sur le pas de la porte, hein, comme Claire lui suggérait. Il entre, il s'avance dans la maison comme s'il était chez lui. Il observe les murs, les hauteurs. Il jauge les lieux comme on repère les faiblesses d'une place forte. Et puis, il se fait menaçant avec une femme seule, en lui glissant que sa belle maison doit sembler bien vide, son mari étant parti. Et là, Katrina Balfe joue ça admirablement. Hein. Claire fait front avec les mots, elle évoque le retour imminent de Jamie, et son corps, lui, a un mouvement de recul, et les bras se croisent, ce qui trahit sa peur. Alors, j'ai pas du tout aimé cette menace, et c'est exactement l'effet recherché. Hein. Alors, pour les non-lecteurs, sachez que toute cette intrigue entre Cunningham et Claire est une invention de la série, elle ne figure pas dans les romans, ce qui la rend d'autant plus imprévisible et chouette à regarder quand on est lecteur. Reste une question qui m'a travaillée et qui a divisé les critiques. Pourquoi Jamie ne réagit-il pas plus fort? Pourquoi est-ce qu'il ne chasse pas Cunningham? Et sa réponse à Claire qui lui pose la question est assez limpide. Si on l'évince ou si on le supprime, un autre prendra sa place ou viendra le venger. Mieux vaut garder son ennemi tout près, sous les yeux. Mais le plus intéressant, c'est que la série refuse de faire de cette famille un bloc tout noir. Quelques scènes plus tôt, Madame Cunningham, Elspeth, débarque chez Claire, l'épaule déboîtée, et Claire la lui remet en place. Alors pour les fidèles, hein, le geste a une saveur particulière, c'est exactement de cette façon que Claire avait rencontré Jamie, en saison 1, épisode 1, en lui remettant l'épaule en place. Un retour aux fondamentaux du personnage, aussi cette guérisseuse à qui même ses adversaires viennent se confier, parce qu'ils savent qu'elle les soignera quoi qu'il arrive. Et la scène entre Claire et Madame Cunningham est un régal parce que Elspeth, un peu grisée par le whisky, laisse tomber sa façade rigide et se révèle drôle, vive, presque attachante. On comprend que son austérité est un masque social et qu'il y a en dessous une autre femme. Et toute cette scène prépare en réalité un conflit bien plus riche, plus émotionnel et moins manichéen. Claire et Elspeth s'apprécient sincèrement et pourtant tout les sépare. Le jour où il faudra choisir un camp sera d'autant plus douloureux. Et puis, il y a ce petit détail que les addicts ont remarqué en visio et que je vous rapporte parce que je le trouve parlant, même si je ne suis pas sûre d'y croire entièrement. Jamie qui rentre et soigne lui-même son cheval, il lui donne du foin, de l'eau, et certaines y ont vu le signe de la solitude du Ridge, l'idée qu'il n'y a plus personne pour le faire à sa place. Alors c'est une belle lecture. Et j'ajouterai juste pour être honnête que Jamie a été palefrenier, hein, qu'il adore les chevaux et qu'il est très doué avec eux, alors peut-être qu'il les nourrit tout simplement par goût du soin. Les deux sans doute cohabitent, mais l'idée demeure, le sanctuaire est devenu pour eux et l'ennemi désormais a un visage. Voici le thème qui me tient le plus à cœur parce qu'il est presque invisible et pourtant essentiel et qu'il nous concerne nous, francophones, au premier chef. Dans cet épisode, c'est la langue française qui sert de révélateur, qui fait remonter à la surface des origines enfouies. Tout part d'une scène très douce entre Claire et Fanny, la nuit, hein, dans la grande maison qui craque sous le vent, et la petite raconte que sa sœur Jen lui disait « Bonne nuit, ma chérie ». Alors, en VO.
« He used to whisper, good night, ma chérie, before we went to sleep.
She spoke French.
A little. She said that's what our mother used to call me. Ma chérie. »
Et Claire se trouble. Bah, pourquoi? Tout simplement parce que Fanny et Jen ne sont pas censées être françaises. Et là, on va approfondir les explications parce que vous avez tous vu l'épisode et que vous connaissez la saison 2. Donc, il n'y a pas de spoiler. Mais souvenez-vous de Faith, la première fille de Claire et Jamie. Bon, perdue à la naissance, en France, dans la saison 2. Depuis le début de cette saison 8, la série multiplie les petits indices, laissant penser que Faith aurait peut-être survécu et qu'elle pourrait être reliée à Jane et Fanny. Et ce « ma chérie » en français a pris de leur mère et l'un de ses indices. Si leur mère parlait français, comme une enfant élevée en France, alors la piste se renforce. Voilà pourquoi Claire est bouleversée. C'était pas confirmé, c'est une graine que la série plante avec délicatesse, mais elle est limpide une fois qu'on la voit. Alors, à noter qu'on perd totalement cette nuance en VF, hein, parce que vous ne distinguez pas que le « ma chérie » est prononcé en français dans le texte, dans la VO. Et puis la langue française irrigue d'autres parties d'épisodes, bah, surtout à travers Fergus. Lui qui est né en France, dans un bordel parisien, parle français à plusieurs reprises. Et c'est en français que remonte son passé. Le prénom de sa mère d'abord, Amélie Levigne Beauchamp, le toast qu'il porte à ses amis.
To muskets, liberty and sauerkraut, mes
amis.
Et cette réplique en français dans le texte où il reconnaît avoir connu une jeune fille de ce nom avant d'ajouter qu'elle est morte.
Perhaps the name of the woman in question will convince you. Amélie Levigne Beauchamp.
J'ai connu une jeune fille qui s'appelait Amélie, oui, mais elle est morte il y a longtemps.
Le français ici, c'est la langue des racines, celle qui dit d'où l'on vient vraiment. Et c'est là que je dois pousser un petit coup de gueule, partagé par beaucoup d'entre vous en visio, sur la version française. Ça aurait pu être mon flop, franchement. Parce que cette nuance capitale, la version française l'a fait purement et simplement disparaître. Quand Fanny dit que sa mère parlait français et que Claire, bouleversée, demande « Elle parlait français ?», la traduction transforme la réplique en « Elle veillait sur toi ». Un contresens total qui efface l'indice et l'émotion de Claire d'un seul coup. Et ce n'est pas le seul accroc, parce qu'à la fin, quand Jamie demande à Yann d'être à ses côtés pour la bataille, la version originale tisse un lien magnifique avec la place que le père de Yann tenait jadis pour Jamie. Ce « Je garderai ton flanc gauche ».
Then of Bash. But that may be gone. But I'll guard your left in his stead.
Thank you, lad.
Et la version française gomme ce lien aussi. Alors, je plains sincèrement celles et ceux qui ne peuvent regarder qu'en français parce qu'on leur vole vraiment des petits trésors. Un mot enfin sur la façon dont Jamie protège ce secret. Je viens de le dire, il demande à Yann de passer par le bordel de Philadelphie pour en apprendre davantage sur les origines de Jane et Fanny. Mais remarquez bien, il ne lui confie pas ses doutes sur un possible lien avec Faith. Il délivre une information fragmentée. Il garde l'essentiel pour lui, comme si cette piste-là était trop intime, trop fragile pour être partagée. Décidément, la langue des origines ne se livre qu'à demi-mot. Dernier grand thème, et il referme le cercle politique de l'épisode. En temps de guerre, personne ne peut rester au milieu. Vouloir ne pas choisir son camp, c'est finir par devenir la cible de tous. Et Fergus l'incarne douloureusement. Son imprimerie est visée par les deux bords à la fois, justement parce qu'il a refusé d'en choisir un. Et Marsali le résume avec lucidité. Quand les gens n'aiment pas les nouvelles, ils s'en prennent à celui qui les imprime. Rester entre deux feux, c'est récolter les coups des deux côtés. Alors Roger, lui, est rattrapé par l'histoire avec un grand H qui se répète. Il croyait négocier tranquillement des armes auprès du colonel Francis Marion, un véritable personnage historique, surnommé le renard des marais, et le voilà piégé dans un camp militaire dont il ne peut plus sortir, à la veille d'une bataille. Pour les plus fidèles, difficile de ne pas repenser à la saison 5, à Alamance, où il s'était déjà retrouvé coincé au milieu des combats, après être simplement allé parler avec Murtha et avec les conséquences que l'on connaît. Et puis, il y a un beau geste de sa part que j'aimerais souligner. Francis Marion lui propose un fusil. Il le refuse, et je pense que la raison est double. Non seulement tuer va contre ses convictions d'homme de foi, mais en plus, il n'est pas vraiment adroit avec un fusil. Vous vous souvenez du début de la saison 5. Et en revanche, lorsque Marion lui propose de se battre à l'épée, cette arme que Jamie lui a appris à manier, finalement, il accepte, parce que ça lui correspond beaucoup mieux. Roger ne renonce pas à se battre, il choisit simplement sa façon de le faire. Et puis il y a Yann, que le passé rappelle brutalement. Rachel découvre dans un journal le récit d'un massacre de population native dans le Nord, et Yann comprend aussitôt qu'il doit aller voir ce qu'il en est de sa première famille, de sa première épouse. Pour le contexte historique, vous le savez peut-être, mais ces violences renvoient à des événements qui se sont effectivement déroulés lors de la guerre d'indépendance, ces représailles terribles menées le long des terres iroquoises. Et donc Rachel décide d'accompagner Yann, et c'est une décision admirable et en même temps intéressée. Elle ne veut pas le laisser affronter seul son passé, par peur légitime d'être oublié. Aucun de ces personnages ne voulait choisir un camp. La guerre, elle, ne leur en laisse pas le luxe. Cet épisode sème aussi quelques graines qu'il faut savoir repérer parce que dans Outlander, le détail anodin annonce souvent la tempête. La plus belle surprise, c'est le retour de Buck qui réactive d'un coup tout le fil du voyage dans le temps, resté en sommeil depuis un petit moment. Pour les lecteurs, ce retour n'est pas dans les romans, et j'avoue que j'adore. Buck rapporte le carnet de voyage de Roger, il affirme aussi s'être occupé de Rob Cameron, et son arrivée suppose qu'il a voyagé jusqu'au XXe siècle avant de revenir au XVIIIe. Mes addicts à l'œil affûté ont d'ailleurs soulevé un vrai débat de date, alors je vous l'explique. Souvenez-vous, en saison 7, Roger découvre dans des documents généalogiques la date de la mort de Buck. Et il en parle même avec lui. Or, cette date correspond à l'année où Buck a disparu pour la première fois au XVIIIe siècle, en laissant derrière lui sa femme Morag et leurs enfants. Alors, comme il n'est jamais revenu auprès des siens, on l'a sans doute cru mort et consigné comme tel, sans certitude. Alors, voilà qui éclaire un peu le débat sur les dates. Une chose est sûre, si on ramène ce personnage, c'est qu'il a un rôle à jouer, probablement auprès de Jamie. Au passage, un petit clin d'œil que les fidèles auront savouré, Buck réclame à Claire un sandwich au beurre de cacahuète, exactement le premier repas que Roger et Brianna lui avaient offert quand il avait atterri chez eux au XXe siècle. Et il y a dans ces retrouvailles une note que je trouve bouleversante. Quand Jamie regarde Buck et lui dit qu'il lui rappelle son père, il accueille avec chaleur le fils de Dougal, cet oncle qu'il a pourtant affronté à mort à la fin de la saison 2. Là où Claire n'aurait sans doute pas pu masquer sa colère, Jamie a laissé le temps faire son œuvre. C'est tout lui, et c'est vraiment très beau. Côté intrigue qui couve, gardez l'œil sur Percy, cet opportuniste n'a pas dit son dernier mot. L'offre faite à Fergus, ses terres à vendre à des colons français, reste sur la table, et un homme comme lui ne lâchera pas si facilement. Et il y a Amaranthus elle-même qui divise tellement. Manœuvrière opportuniste ou jeune veuve isolée qui cherche simplement à survivre dans un monde où une femme seule n'est rien. Ce qui trouble, c'est qu'elle parle déjà de remariage et d'héritier alors que rien ne confirme la mort de son mari, ce que William lui-même peine à croire. Alors, beaucoup d'entre vous ont vu l'interview où l'actrice qui incarne Amaranthus, Carla Woodcock, et Charles van der Vaart, qui joue William, reviennent sur ce personnage. Et ils laissent entendre, tous les deux, qu'Amaranthus n'est pas forcément la calculatrice qu'on croit voir. En tout cas, l'actrice est charmante. Et donc, le débat est ouvert et je ne le trancherai pas, à chacun de faire son propre avis. Et puis, notez enfin ce geste de Francis Marion qui donne une tape sur l'épaule de Roger. Et on se dit, et si c'était Roger qui finissait par obtenir une confiance que Jamie, lui, n'a pas su gagner? Si vous avez repéré d'autres signaux, écrivez-les en commentaire, vous avez souvent l'œil assez aiguisé. Au final, après le visionnage de l'épisode, quelle est la sensation qui domine chez moi? C'est celle d'un épisode éclaté, mais parfaitement maîtrisé, et qui assume de ne pas avoir de grand climax. Je vous l'avais dit en introduction. Sa force, c'est justement cette dispersion organisée, cette façon d'allumer des mèches un peu partout sans qu'aucune n'explose encore. Comptez-les avec moi, ces mèches. Cunningham qui s'invite chez Claire et fait entrer la menace dans le foyer. Fergus sommé de revendiquer un père qu'il refuse. Buck qui ressurgit du futur et rouvre le fil du voyage dans le temps. Roger piégé dans un coin à la veille d'une bataille. Yann rappelé vers son passé par un massacre. William qui se rapproche dangereusement d'Amaranthus, et ce « ma chérie » murmuré en français qui rouvre tout doucement la plaie de Faith. Cette étincelle, au bas mot, et pas une seule n'est embrasée. C'est vertigineux et c'est exactement ce qui rend la suite si attendue. Et si je ne devais retenir qu'une idée de toutes ces histoires entremêlées, ce serait celle-ci qui les relie en secret. Les liens du cœur priment sur les liens du sang. Fergus le crie, Brianna le prouve, Lord John l'incarne. Dans une saison qui parle de guerre, d'héritage et de survie, c'est une bien jolie boussole. Avant de vous laisser réagir, un petit conseil. Replongez-vous dans l'état d'esprit du jour où vous avez découvert l'épisode. Et puis dites-moi en commentaire. Ce « ma chérie » de Fanny, vous l'aviez capté? Et Amaranthus, sincère ou stratège? Un mot pour vous dire ce que vous trouverez sur Patreon. Parce que cette communauté, c'est le cœur battant de mon aventure. Un petit cocon avec une communauté d'une bienveillance folle, un book club toutes les 3 semaines, une visio en direct tous les mois pour refaire le monde Outlander ensemble. Et surtout, toutes mes vidéos sous-titrées en français, dont les interviews des acteurs que je réserve à mes membres. C'est concrètement ce qui fait vivre tout l'univers Outlander Addict, cette chaîne en particulier. C'est ce qui permet de porter ces contenus jusqu'aux fans francophones, de faire le montage des vidéos et de les mettre en ligne. Alors si le cœur vous en dit, la porte est grande ouverte, premier palier au prix d'un cappuccino. Et je ne vais pas m'en aller sans une pensée toute particulière pour tous mes addicts officiels, celles et ceux qui me soutiennent depuis le tout début ou ceux qui sont arrivés récemment dans la communauté. Pensée particulière à mes addicts passionnément à la folie. Du fond du cœur, merci à tous. Sans vous, rien de tout ça n'existerait. Un dernier mot pour vous dire de tout de suite aller appuyer sur le pouce. Pourquoi pas de partager la vidéo pour la faire découvrir à d'autres fans comme vous, à des amis, à vos amis Outlander, aux Sassenachs. C'est le signal qui dit à YouTube que ces vidéos méritent d'être vues. Et c'est comme ça qu'on a grandi notre famille. On se retrouve très bientôt pour le 5e épisode. Et j'ai déjà hâte de vous en parler. Et d'ici là, prenez soin de vous.